l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Marc.
Et ce matin, prions pour le Burkina.
Oui, prions pour lui et le Burkina. C'est ainsi que le journal L'Observateur Palga saluait tout en prudence hier la nomination du nouveau chef de l'État intérimaire, Michel Kafando. Ainsi, l'oiseau rare a-t-il enfin été déniché ? Voilà près de deux semaines maintenant qu'on le recherchait, lui, l'homme du consensus. Et c'est donc aux aurores, hier matin, à l'issue d'une interminable nuit de conciliabules, précise le journal, que le comité de désignation a jeté son dévolu sur Michel Kafando. Alors à la lecture du pédigré de l'animal politique, vieux routier de la diplomatie, on se dit que cette désignation ne doit rien au hasard, même s'il est peu connu, c'est vrai, du grand public. Et c'était d'ailleurs là peut-être même son atout majeur. Celui à qui vient d'échoir la charge suprême a tout de même été plusieurs fois déjà été ministre donc des Affaires étrangères, mais aussi représentant spécial permanent du Burkina auprès des Nations Unies pendant une quinzaine d'années. Sauf que depuis 2011, raconte toujours le journal burkinabé, Michel Kafando, 72 ans, vivait une paisible vie de retraité. Il tuait son temps dans les activités avicoles dans la banlieue de Ouagadougou. Autant dire que celui qui semble être insubmersible pour avoir traversé presque tous les régimes va devoir momentanément, du moins, prendre congé donc de sa basse-cour pour une ultime mission, sans doute et de loin la plus périlleuse qui lui ait jamais été confiée. Le journal de préciser encore une mission dont il devra s'acquitter avec tout le soin, dit-il, qu'il mettait jusqu'à présent à tenir les œufs de ses poules. Alors, tiré de sa retraite pour la bonne cause, Michel Kafando a donc désormais 12 mois devant lui pour mener à bien la transition du pays. Et c'est peu de dire que les chantiers qui l'attendent sont absolument pharaoniques, du panier de la ménagère aux sollicitations des paysans, en passant par la gestion des finances publiques, sans oublier, bien entendu, l'organisation d'élections libres, transparentes et équitables. Mais même si la question se pose de savoir si les fruits tiendront la promesse des fleurs, quoi qu'il en soit, le peuple burkinabé peut tout de même déjà se réjouir d'avoir franchi une étape décisive de sa marche vers la démocratie. Deux semaines seulement après la chute du pouvoir de Blaise Compaoré, on ne peut pas dire que les choses ont traîné, relève le pays, avant d'ajouter fièrement « Le peuple a non seulement arraché le pouvoir des mains d'un homme qui voulait en abuser, mais il a encore voulu le signifier à l'Afrique et au reste du monde ». D'où cette question soulevée cette fois-ci par le magazine Jeune Afrique. 4 ans après les printemps arabes, le moment est-il venu de ce que les réseaux sociaux enthousiastes appellent déjà les printemps noirs? En d'autres termes, l'onde de choc de la révolution burkinabé va-t-elle, à l'instar de la tunisienne, se propager en dehors des frontières du pays qu'il a vu naître et réussir? Au-delà des adeptes des prophéties autoréalisatrices, les commentateurs sérieux qui y croient ne sont pas rares, le très pondéré Financial Times notamment, n'hésite pas à élargir même la liste des chefs d'État menacés à tous ceux qui auront à se représenter devant leurs électeurs au cours des 3 prochaines années. Alors plusieurs arguments de poids militent a priori en faveur d'une possible contagion. Tout d'abord, le développement d'une culture de la protestation citoyenne au sein d'une population de plus en plus jeune et urbanisée, mais aussi l'effet d'imitation suscité via les réseaux sociaux. Et puis, autre élément, la position désormais à peu près cohérente des Américains, des Français et de l'Union européenne à propos de la limitation des mandats présidentiels. Puisqu'après avoir longtemps fermé les yeux sur les révisions constitutionnelles, les Occidentaux semblent à présent s'être résolus à la tolérance zéro en la matière. Reste qu'il faut se méfier des effets de miroir, précise toujours le magazine Jeune Afrique. Si au Burkina Faso la cohésion sociétale est certes réelle et le facteur ethnique lui négligeable, le même degré d'appropriation des mécanismes de la démocratie existe-t-il par exemple en Afrique centrale? Eh bien, poser la question, c'est semble-t-il déjà y répondre. Alors bien sûr, cela ne signifie pas que la poignée de chefs d'État confrontés aux mêmes défis constitutionnels que Compaoré n'a pas été ébranlée par la chute brutale du président. Le test burkinabé a été vécu par eux comme un avertissement sans frais, mais aussi par leurs opposants comme une source d'inspiration. Mais en attendant, et plus que jamais, l'heure est au silence. Le prochain test, le Burundi, où Pierre Nkurunziza souhaite se succéder à lui-même en interprétant à sa manière la Constitution, est dans 9 mois. Et ni Joseph Kabila, ni Denis Sassou Nguesso, ni Paul Kagame n'ont encore dévoilé leurs intentions en ce qui les concerne. Enfin, n'allons pas imaginer que ces considérations n'affectent aujourd'hui que le seul continent africain. En Équateur, par exemple, rappelle le site du courrier international, Rafael Correa, au pouvoir depuis 7 ans, a proposé de modifier la Constitution afin de permettre l'élection indéfini du président. La Cour constitutionnelle vient d'ailleurs d'avaliser ce principe. Il revient désormais au Parlement de statuer. En clair, il n'y aura pas de référendum populaire, comme le réclamait pourtant l'opposition, ce que regrette le journal L'Expresso, avant d'en conclure qu'ici aussi, le pays marche dans les pas des modèles de président à vie.